qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation, animée en direct sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay.
Édito du lundi 18 décembre 2023 du Monde Merveilleux d'après, nous recevons Hélène, co-animatrice de l'émission Fab Libre sur Radio Libertaire 89.4, tous les mercredis des 18h30 à 20h30, donc 12 heures d'affilée.
Bonsoir.
Ah, donc c'est, pour les auditeurs de Radio Libertaire, c'est une voix qui n'est pas...
Inconnue.
Qui est inconnue et qui est même plutôt familière.
Oui, ah, oui, ça fait des années.
Un petit peu quand même. Donc, nous allons évoquer ensemble, on va essayer en tout cas d'évoquer ensemble Séverine et Germaine Berton. Pour moi, active plutôt dans le milieu de la presse libertaire et anarchiste. On va essayer de faire chronologiquement, un personnage peut-être un petit peu moins connu des auditeurs de Radio Libertaire, c'est Marie Harris Jones, plus connue sous le nom de Mover Jones, et Lucy Parsons. Ils sont des militantes syndicalistes révolutionnaires en Amérique du Nord. Et puis, si on a le temps, parce qu'en fin de compte, on a peut-être été un petit peu ambitieux, on essaie de faire un petit tour sur Simone Veil et les Mujeres Libres dans le cadre de la Révolution espagnole, dans le cadre de la Révolution espagnole et de la CNTE espagnole, donc. Mais tout de suite, comme il n'y a pas de chronique, on va s'écouter une chanson. Voilà. Merci Bénédicte.
ways. We won't fade. We're the change. We are here on this day. This is a promise to you, a promise we made.
C'était Fanny Walked the Earth, le titre When We Need Her, sur Radio Libertaire, à l'écoute du monde merveilleux du travail.
Voilà, bah, c'est mieux quand c'est quelqu'un qui maîtrise mieux l'anglais que moi. Hein
dire le... with the accent.
Elle parle pas bien dans le micro, pas en face, mais c'est pas grave.
Ah, pas encore,
ça,
oui.
C'est... Je sais pas si ça viendra, je sais pas si on aura le temps de... bon, c'est une private joke.
La question est posée.
En tout cas, c'était une. Pour commencer cette émission qui va être consacrée essentiellement à des militantes, donc des femmes actives dans le milieu révolutionnaire et mouvement ouvrier. Voilà, bah là, ça c'était des, on va dire des rockeuses. Hein, c'était un des premiers groupes de rock, sans doute le premier groupe de rock, s'appelait The Fanny, les années 70, aux États-Unis, entièrement composé de femmes. Ah. Voilà. Mais là, bon, c'est. Le nom est... Bref, c'est un des derniers albums qu'ils ont fait, mais pas sous le nom The Fanny. Mais... Donc Fanny... Bon, bref. Voilà, c'est tout. Ça ne faut pas me toucher. J'en voulais dire plus, mais je vois bien que ça...
Non, c'est très bien. N'ayons pas peur de la culture.
Donc, on va interroger Hélène.
Bon, on va passer de Fanny à Séverine.
Et
voilà. Je pense que, entrons dans le vif du sujet...
Alors Séverine, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, hein, et puis récemment j'ai acquis un livre qui est paru à l'échappée, qui s'appelle L'Insurgée, Séverine l'Insurgée, et elle nous dit cela dans le début du livre. D'avoir gardé le don précieux de s'amuser de tout, ou mieux, de m'intéresser à beaucoup de choses, de rire au soleil et de rêver aux étoiles, d'enrichir ma vue de tout ce qui reluit, or ou cuivre, paillettes ou paillons, de garder fidèlement ma mémoire le reflet de tout ce qui vit, de tout ce qui se passe, je me suis constitué pour toute l'existence un trésor que les plus longs jours n'arriveront pas à épuiser. Mais j'ai travaillé beaucoup et je n'ai jamais été riche. C'est peut-être notre opulence à nous que la fraîcheur éternelle de la sensation et la saveur des rares instants de liberté. C'est pas mal. Hein? Voilà, donc c'est une femme qui écrit très bien. Elle a énormément écrit, c'est une journaliste avant tout. Journaliste.
Mais tu sais qu'il y a des journalistes qui écrivent beaucoup et mal. Hein.
Oui, et ben là, je peux dire qu'elle écrit bien.
C'est remarquable.
Voilà. Alors c'est vrai qu'elle était aussi à bonne école avec Jules Vallès, puisque elle a travaillé avec lui au moment où il s'était un peu exilé du fait de certains mouvements politiques, n'est-ce pas, du 19e siècle.
Oui, pour restituer pour les auditeurs qui connaîtraient pas, effectivement, ni Jules Vallès ni Séverine, c'est quand même l'après-commune.
Voilà, c'est l'après-commune, donc il est...
La commune de 1871.
De 71, ouais. Il est à Bruxelles, hein, et puis avec Séverine qu'il rejoint, et tous les deux dirigent le Cri du Peuple. Mmh. Et le Cri du Peuple, c'est quand même un journal extrêmement intéressant. Et... Du fait de la mort de Jules Vallès, eh bien, c'est elle qui va être directrice. Et ça,
on prend la suite, ouais.
C'est quand même extraordinaire qu'une femme, à ce moment-là, hein, à ce moment-là, puisse être directrice d'un grand journal. Parce qu'un journal militant, mais c'est quand même un des grands journaux militants.
On a eu l'occasion de faire des émissions sur la presse libertaire, et c'est vrai que souvent, ce sont des hommes qui écrivent, qui éditent. Tout est fait souvent par des hommes, quoi.
Alors,
c'est vrai que... Ah oui, ça continue.
Mais dans le mouvement féministe, on peut citer Séverine, parce qu'elle était anarchiste, mais pas que. Hein. Elle a fait un petit peu autre chose aussi. Mais on va dire anarchiste, quand même une grande partie de sa vie, et féministe. Donc, elle, c'est le cri du peuple. Mais elle va contribuer énormément à la Fronde, qui est le seul journal quotidien, dirigé par Marguerite Durand. Et Marguerite Durand n'avait embauché que des femmes pour tous les métiers de la presse. Tous les métiers de la presse, avec un salaire égal pour toutes. D'accord ? Donc ça aussi, dans les journaux militants, la Fronde est une exception, vraiment. Et si la bibliothèque qu'il y a à Paris, qui s'appelle la bibliothèque Marguerite Durand, s'appelle comme ça, c'est parce que Marguerite Durand, non seulement c'est une figure dans le journalisme, mais en plus, elle avait collecté énormément de documentation, de livres et tout ça, qu'elle a légué à la ville de Paris. Et du coup, ça a fait la bibliothèque Marguerite Durand. Et bon nombre de féministes ont légué aussi des livres, des ouvrages, des tracts, des affiches, des objets, etc. D'ailleurs, on a pu le voir au moment de l'exposition avec la conseillère scientifique, voilà. Je ne sais plus comment on dit, moi, la commissaire scientifique, qui est Christine Barr, qui travaille à l'Université d'Angers, l'exposition parisienne citoyenne, qui avait lieu l'année dernière, hein, à la même période, au musée Carnavalet. Qu'est-ce qu'on y a vu ? On y a vu la bourse de Louise Michel, qui, elle, n'était pas à la bibliothèque Marguerite Durand, mais qui était au musée d'histoire sociale de Saint-Denis. Voilà, des objets comme ça, enfin, je peux vous dire, la bourse...
Ça t'émeut.
Ça m'émeut. Et quand on retrouve des documents... moi, j'y suis allée dans cette bibliothèque, mais quand on retrouve des documents qu'on explique pourquoi, par exemple... Je vais vous donner un petit exemple, moi, qui m'avait extrêmement marqué. Pourquoi dans les maquis de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des noms un peu qu'on comprend pas, quoi. Parce que le maquis du Vercors, d'accord, il y a peut-être le Vercors, mais quand il s'appelle Bruno ou Gudule, on comprend pas. Eh bien, on a des réponses parce que il y avait une des maquisardes qui, elle, venait de mettre au monde un enfant, et plutôt que donner un nom politique, et bon, donnait le nom de l'enfant parce que, évidemment, il fallait être clando. Voilà, c'est ça qu'on trouve. Alors, à la bibliothèque Marguerite Durand. Alors, pour Séverine, donc, elle a dirigé ce grand quotidien, hein, Le Cri du Peuple, de 1985 à 1988.
1800.
Ah oui, moi, alors ça, c'est terrible. Non, t'as raison.
J'aurais pu connaître, mais là, c'est pas possible.
1885 à 1888, hein, voilà. Elle était née en 1855, et elle est morte en 1929, hein, et d'ailleurs, ça... le bâtiment qu'elle a laissé en mourant, eh bien, c'est devenu, j'ai appris ça en cherchant un petit peu, eh bien, c'est devenu, je ne le retrouve plus, une résidence pour des journalistes femmes. C'est Marguerite Durand qui a décidé d'en faire une résidence. Voilà. De manière à ce que les femmes, au moment où il y a des choses qu'elles doivent faire ensemble, par exemple, ou qu'elles doivent se reposer, eh bien, elles avaient. Et cette maison, c'est à Pierrefonds. Alors, la Fronde, qui est aussi un quotidien. Et donc, je redis quotidien féministe géré uniquement par des femmes et par la journaliste Marguerite Durand. Eh bien là, Séverine écrit tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire une production absolument incroyable. Et auparavant, j'ai repéré qu'auparavant, quand elle écrivait... Alors, dans des journaux plutôt conservateurs, hein, parce qu'elle a écrit un petit peu partout, mais elle a eu une phase aussi où il faut vivre.
Oui, il faut la plume qui nourrit. Hein,
voilà. Le Gaulois, bon, ouais. Et puis Gil Blas, eh bien, rien que dans ces deux journaux-là, elle avait écrit plus de 4000 articles. Alors, à la Fronde ou au Cri du Peuple, vous imaginez, quand elle écrit tous les jours, le nombre d'articles qu'elle peut avoir produit. Et elle est journaliste, elle organise des manifestations aussi, la grosse manifestation de 1905 où elle réunit 6000 femmes. C'est pas mal, hein. Enfin, même aujourd'hui, hein, des fois on a du mal dans nos manifestations à avoir quelques milliers, hein, des fois. Bon, 6000 femmes, là c'est pour le droit de vote. Bon, toutes les féministes de l'époque n'ont pas prôné le droit de vote, mais elle a prôné le droit de vote.
Ça s'agrège au mouvement des suffragettes.
Voilà, ouais. Alors on dit suffragiste. Très exactement, parce que suffragette, c'est comme fillette. C'était pour dire que c'était des luttes sans importance. Voilà. Donc suffragiste.
Décrédibiliser un petit peu le mouvement.
Oui, voilà. Suffragiste, c'est plus important. Elle a été Dreyfusarde, hein, faut quand même pas l'oublier. Elle a soutenu Dreyfus, hein. Même si à certains moments, elle a eu des relents sur les, bon, on va dire. La mouvance juive, hein, pour être gentille. Voilà, mais elle a soutenu Dreyfus, elle a soutenu énormément Sacco et Vanzetti aussi. Mmh. Hein, faut aussi voir tout ce qu'elle a pu faire avant d'arriver au PCF. Un petit moment, pas trop longtemps, mais enfin, elle y est restée. Ça, c'est un petit peu dommage. J'ai parlé de la manifestation de 1905 pour les suffragistes, mais elle le fait en juillet 1914. Et là, on a une photo d'elle en début de manifestation, juillet 1914, avant que la guerre soit déclarée. Elle rassemble une manifestation. Toujours en faveur du vote, où il n'y a que 2400 personnes, mais qui est symbolique parce que c'est une manifestation qui va à la statue de Condorcet. Condorcet qui, aujourd'hui, est une grande figure de l'Europe, hein, et de l'éducation tout au long de la vie. Donc, je crois que ça, c'est un personnage qui était important pour Séverine, l'éducation tout au long de la vie. Et évidemment, c'est un mouvement pro-vote, toujours, et qui va être cassé avec la guerre de 14. On fait une manif au début juillet, et puis le 31 juillet, il se passe, bien sûr, la guerre, avec la mort de Jaurès aussi. Voilà. elle a soutenu, enfin, elle était dans une indépendance intellectuelle, mais et liberté d'opinion, c'est pour ça qu'elle a aussi un petit peu varié avec le PC, l'anarchisme, la SFIO, elle a fréquenté des gens comme Henri Poulaille ou Jules Romain. C'est quelqu'un qui compte dans le monde intellectuel. Mmh. Elle écrit pas mal de livres aussi. Son livre sur son enfance, et ça rigolait pas. Elle s'appelle Caroline Rémy, son vrai nom. Chez les Rémy, ça rigolait pas. Elle est une mère très très pieuse, et puis un père, qui l'a amenée à réfléchir, mais ça rigolait quand même pas. Et elle écrit ça dans un livre où elle raconte son enfance qui s'appelle Lynn, je crois, il me semble. Voilà. Et puis, quand le fascisme commence dans les années 30, là, elle écrit énormément sur la montée du fascisme dans plusieurs journaux. Mais ce que moi je retiens de Séverine, si on veut terminer sur elle, c'est surtout son féminisme et sa capacité à être pour le droit à l'avortement, à sa capacité à faire l'oraison funèbre de Louise Michel en 1905 aussi. Qui est un événement important, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, elle a fait partie de ce mouvement. Alors que elle, dans ses écrits, elle ne dit pas néo-malthusien, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle parle de Malthus, alors que quand même chez les anarchistes, on a fait attention à ne pas prôner Malthus. Malthus, la différence avec les néo-malthusiens, Malthus était pour une régulation des naissances pour que tout le monde puisse vivre sur Terre. Ce qui reste quand même d'actualité. Voilà. Mais c'était un peu, pas au choix des personnes. Alors que les néo-malthusiens ont fait très très attention d'être pour l'amour libre en même temps que d'être néo-malthusien, et en pointant que si on faisait trop d'enfants, c'était surtout des anarchistes individualistes, si on faisait trop d'enfants, eh bien, effectivement, on restait misérable. Et donc, il fallait réduire le nombre d'enfants, mais il fallait pas, comme on a fait en Chine, réduire ou imposer par une coercition, imposer la régulation des naissances. Voilà. Tu voulais dire autre chose sur Séverine ?
Non, non. C'est vrai que moi, j'étais allé il y a presque un an et demi, deux ans, avec Bénédicte, on était allé à Pierrefonds. Je voulais aller sur la tombe et j'ai complètement oublié. Voilà, on a préféré manger des crêpes ou je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai, mais non, mais c'est vrai que j'ai complètement zappé, et comme j'étais en fait de passage. J'ai regretté après.
Merde. Alors, pour en savoir plus sur Séverine, eh bien, je redis le titre, Séverine l'insurgée, aux éditions L'Échappée. C'est Laurence Ducousseau-Lacaze, qui est enseignante visiblement dans la région d'Amiens, qui a collecté ce livre, qui a rassemblé un certain nombre de titres écrits par
des articles.
Voilà.
Oui, ce qui peut être intéressant, en fait, d'avoir les articles comme il a pu être fait pour Émile Pouget, quand il écrivait dans le Père Pénard, un recueil comme ça.
Pour terminer. Écoutez, citoyens libres, il est temps de vous affranchir des vieilles croyances dont trop longtemps on vous l'aura. Il mentait, les prêtres, en vous affirmant l'âme éternelle. Il mentait en vous promettant une autre vie, meilleure et plus douce, réparatrice des iniquités de celle-ci. Mensonge, abominable mensonge. Sorti du néant, l'homme rentre dans le néant. Il n'a rien à attendre que de lui-même. Il ne goûtera de joie que celle qu'il saura s'offrir ici-bas. La matière est tout, la matière est Dieu. Voilà, mais c'est... évidemment anti-religieux, hein. Voilà, ça c'est une fin d'article de Séverine.
Ça correspond aussi à l'époque.
Oui, bien sûr.
Un combat contre le cléricalisme.
Oui.
Assez, ouais. Assez virulent, qui a notamment mené à la séparation des églises et de l'État. Donc on est dans le ton. Alors moi, ce que je voudrais souligner peut-être aussi, c'est la prouesse industrielle, c'est-à-dire que tenir un journal quotidien en produisant des articles avec des techniciens du métier du livre, hein, des techniciennes en l'occurrence, c'est une prouesse industrielle et économique. Il faut indéniablement, sur plusieurs années, étant donné le coût de production... ne serait-ce qu'un 4 pages, franchement, il faut souligner la prouesse.
Je crois aussi qu'elle s'est mariée plusieurs fois, et son dernier mariage, me semble-t-il. Alors, je ne me rappelle plus le nom de son mari, mais il y avait un petit peu d'oseille, en fait. Donc, c'est lui aussi qui a apporté, qui a pu financer. En fait, ensemble, ils ont financé.
C'est lui qui a financé le Cri du Peuple. Mmh. C'est Adrien Guébard. Qui a financé elle s'est mariée une première fois, ça n'a pas duré, et puis après il y a eu un soutien financier pour le Cri du Peuple en particulier. Ouais. Elle a aussi participé à ce qu'on appelle maintenant le prix Fémina, mais qui s'appelait pas comme ça à l'époque, qui s'appelait Vie Heureuse. Bon, ça... Mais Fémina, c'est guère mieux, hein. Mais ça n'empêche que ça prime des livres écrits par des femmes. Voilà.
C'était le prix Vie Heureuse. C'est
Vie Heureuse, oui. Vie Heureuse, voilà. Création de la Vie Heureuse en 1904. Elle est présidente du jury. Elle a participé pendant très longtemps à ce jury. Et c'est Vie Heureuse qui a donné après le prix Fémina, puisque ce sont des prix qui sont décernés à des femmes qui écrivent. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment.
Oh, si. Si. Enfin, la Vie Fémina, Heureuse, non. Le prix Fémina, si, ouais. Quand même. Si.
Oui, mais que ça soit Séverine qui en a été la présidente, voilà, et qui a cofondé avec d'autres. Hein, je trouve que c'est intéressant, quoi.
Ben ouais.
Donc, puisqu'on était sur Séverine, on va passer à Germaine Berton. Alors, il y a un faible lien, puisque Germaine Berton,
elle a été soutenue par Séverine.
Bah justement, voilà. C'est là que je voulais en venir lors de son procès. Parce que Germaine Berton est connue pour avoir assassiné Marius Plateau. On va expliquer qui c'est plus tard. Et donc, lors de son procès, effectivement, Séverine l'a soutenue. Et c'est comme ça qu'on fait le lien avec cette personne qu'on avait déjà nous cité aussi dans nos émissions sur la presse libertaire. Alors, la vie de Germaine Berton est sans doute moins intéressante que celle de Séverine.
Oui, mais...
Elle est peut-être un peu différente, plus axée... Alors, elle est... c'est assez politique, Germaine Berton, on va dire. Enfin, c'est presque plus du gauchisme, en fait.
Oui, mais elle a été reconnue par le mouvement anarchiste en particulier, hein, et soutenue par le mouvement anarchiste, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'une femme fasse ça. C'est plus le geste que le raisonnement politique qu'elle pouvait avoir. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on la traiterait de gauchiste. Hein, elle trouve pas Léon Daudet, alors elle tue Marius Plateau. Ça n'a pas beaucoup de sens. Elle avait déjà fait de la prison avant, hein, un petit peu de prison. Hein. Là, évidemment, elle va en faire. Mais elle va et elle va en refaire encore après, hein. Mais elle a été défendue par tout le mouvement anarchiste. Il y a eu des articles dans le Libertaire de tout le monde, quoi.
Mais oui, parce qu'elle a... Ah oui, il y a plusieurs... Alors, c'est vrai qu'elle a été... Alors, c'est une contemporaine, en fait, hein, de...
Alors, elle est plus jeune. Elle est née en 1902, alors que Séverine est née en 1855. Donc, elle est beaucoup plus jeune. Mais, puis elle meurt jeune aussi, puisqu'elle a 40 ans. Elle meurt en 42, hein. Voilà. Mais
elle meurt
syndicaliste.
La même année que Daudet. Du reste, hein.
Oui.
À trois mois après, je crois.
Non, à quelques jours. Quelques jours, pardon.
Donc elle a fini par l'avoir.
Oui, oui. elle meurt quatre jours après la mort de Léon Daudet. Hein, ce qui est quand même, évidemment, un beau pied de nez. Mais elle a été syndicaliste, hein, Germaine Berton. Hein, parce qu'elle était ouvrière dans une usine d'équipement américaine. Enfin, bon, voilà. Et c'est là qu'elle s'engage dans un syndicat en Indre-et-Loire. Hein. Voilà. Et dans les comités syndicalistes révolutionnaires, sur Tours, voilà. Et tout de suite, elle est repérée par la police. Tout de suite. Parce que c'est une grande gueule. Elle est jeune, elle est très très jeune quand elle commence. Hein. Enfin, de toute façon, elle n'a jamais été bien vieille. Mais...
Oui, de toute façon, elle est née en 1902, donc effectivement. Ça se passe avant la guerre. Donc, ouais, elle est. D'avoir quoi, 16 ans.
Elle commence à travailler à 13 ans.
Ouais.
À 13 ans, hein. Voilà. Et donc, elle se syndique d'abord dans cette usine d'équipement. Et puis après, elle va travailler au chemin de fer. Hein, et elle reste syndiquée. Après, c'est le syndicat des métaux. Toujours dans la même région, hein, de Tours.
Alors, comme Séverine, elle va brièvement aussi adhérer au Parti communiste.
Oui.
Mais alors...
Mais
en 1920, alors je ne sais pas en fait si c'est... Nous, on a déjà évoqué avec Eric, on devait faire une émission sur le soviétisme.
Elle viendra, cette émission.
Ma tête, oh, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est effectivement le même... Est-ce que c'est ce parti communiste marxiste ou celui qui est issu du soviétisme? Je ne sais pas trop en fait.
Alors,
mes recherches ont pas été.
Alors, ce qu'il faut savoir, parce que moi je viens d'une famille de communistes et d'un grand-père qui était au congrès de Tours de 1920, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une période. Alors, avant la guerre de 14, hein, surtout, on est dans une période où. Quand on parle de SFIO, quand on parle d'anarchistes, en fait, les militants, et surtout les militantes, parce que moi je connais plus la vie des militantes, je les ai plus travaillées, elles circulent. C'est-à-dire, elles écrivent dans un journal, mais elles écrivent dans un autre aussi. Il n'y a pas, comme aujourd'hui, des cloisonnements. Mmh. Ça circule beaucoup plus. Et en 1920, quand le PC se constitue au congrès de Tours, c'est pour ça aussi. Mmh. Voilà, congrès de Tours, elle est à Tours. Ouais. Quand ça se constitue, on n'est pas sur le bolchevisme. On est sur les idées encore soviétiques.
Ouais.
Le soviet.
C'est pour ça que je faisais référence au soviétisme, parce qu'il y avait un précédent, justement, parti communiste, mais qui était plus axé sur le mouvement des soviets russes.
Ouais,
c'est assez méconnu, hein, en France, visiblement.
12 ou 18 mois avant, c'est ça
Il y en a un qui s'arrête, l'autre qui reprend. Mais pas avec les mêmes orientations, mais... peut-être avec des personnages assez similaires et avec une confusion aussi sur le rôle des bolcheviques.
Et puis c'était je pense que c'était légitime quand même qu'il y ait une illusion sur la révolution russe. Mmh. Enfin, je veux dire, nous on est mal placés quand même pour dire ils auraient dû s'y attendre. Nous, on a vu la suite. Hein. Mais là, à ce moment-là, il y a compte tenu de la fait, enfin de la classe ouvrière qui a été cassée dans son mouvement par la guerre de 14 et que en 17 et puis les années suivantes, il y a une illusion sur ce que ça pourrait donner, puisque il y a des gens qui ont lutté en Russie, qui en sont morts, qui sont, et puis il y a des anarchistes qui y étaient aussi. Voilà. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu une aura très positive du soviétisme, hein, on va dire ça comme ça, du soviétisme en France. C'est pas étonnant. Nous-mêmes, on aurait peut-être fait pareil. Hein.
Ah non, mais je
voilà.
Alors, ce mouvement le soviétisme, donc j'évoque, je le critique pas. Hein, c'est purement politique,
oui,
en fait. Hein,
puisque Emma Goldman y est allée aussi pour voir ce qu'il en était. Oui. Enfin, tout le monde y est allé pour voir. Hein, quand même, voilà, quand ils avaient les possibilités. Mais Germaine Berton, quand elle arrive à Paris, c'est là qu'elle rencontre les anarchistes.
Oui, elle va y rencontrer Louis Lecoin.
Voilà.
Notamment.
Qui va l'aider, bien
Louis
sûr.
Louis Lecoin et sa femme, enfin le couple, hein, Lecoin, en fait.
Oui, oui, au Pré Saint-Gervais, on la voit. Mais c'est là qu'elle l'adhère ou je ne sais pas si elle adhère, mais en tout cas, elle fréquente l'Union anarchiste. Ouais. C'est à Paris, hein, quand elle arrive à Paris. Et on est dans les 1920 aussi. Hein. Donc voilà, ça bouge tout ça. C'est, voilà.
L'Union anarchiste, c'est des anarchistes individualistes, hein, quand même.
Oui, oui, oui. Oui, oui, absolument.
Et elle était individualiste et puis unie, malgré
voilà.
tout.
Elle était dans la section, je ne sais pas, dans le groupe du 14e arrondissement.
Ouais.
Hein, voilà. Et donc c'est
part, oui.
Oui, elle est condamnée à 3 mois de prison une première fois et elle est incarcérée à Saint-Lazare parce que voilà.
C'est pas
elle a perdu ses papiers d'identité. Ouais. L'autre la reçoit mal chez les flics. Elle gifle
secrétaire du commissaire.
Voilà. Et puis voilà.
Ça passe mal.
Elle se fait 3 mois de prison.
Bravo pour l'action directe, mais alors, pour le résultat.
Oui, 25 francs d'amende, ce qui était une grosse somme. Hein, et puis, c'est là qu'elle est recueillie par Louis Lecoin et par Marie Morand. Hein, c'est à ce moment-là. Voilà. Et donc, elle va militer.
Elle va rentrer au Libertaire.
Oui.
Alors, c'est pas en tant que journaliste, mais plutôt des tâches administratives.
Mais oui, bon, parce qu'elle a des problèmes de santé. Dès 1922, elle a de vrais problèmes de santé. Donc, tout le travail qu'elle faisait, par exemple, au chemin de fer, qu'elle faisait dans la métallurgie, tout ça, ben c'est plus possible. Elle travaille plus. Elle a des dettes. Enfin, c'est quand même un personnage, hein. C'est un personnage.
Oui, c'est vrai qu'elle emprunte beaucoup, elle ne rembourse pas.
Oui.
Et elle a cette idée d'anarchisme, de genre, tu vas piquer dans la caisse de celui qui possède un petit peu.
Voilà, exactement.
C'est comme ça qu'elle va piquer un petit peu, mais elle va se faire virer du Libertaire, parce que je pense qu'elle a tapé dans la caisse aussi.
Ouais. Et elle se fait virer du Libertaire, oui, parce qu'elle a piqué des documents et elle a piqué des
oui,
sous.
Oui, des lettres. Des
voilà,
lettres,
et puis des...
Et du fric aussi.
Voilà. Alors, ça fait 100 ans qu'elle a assassiné Marius Platon, puisque c'était en janvier 1923. 100 ans pile, ouais. Hein, enfin 100 ans pile, avec quelques mois de plus.
Ça,
hein.
Ça va faire 101 ans même.
Bientôt, oui. Et elle déclare vouloir se venger de Jaurès hein, à ce moment-là. Et puis, elle proteste contre l'occupation de la Ruhr. On est quand même un peu fêlé quand on associe la vengeance de Jaurès... 1914-1923, donc ça fait 9 ans plus tard, avec l'occupation de la Ruhr, pour justifier qu'on va tuer un mec d'extrême droite.
Action française.
Action française, voilà, c'est un peu bizarre. Mais bon.
Mais après, je pense que si elle vit effectivement un peu dans la précarité, comme ça, qu'elle n'est pas... qu'elle peut pas travailler, donc a des problèmes d'argent. Bon, ça peut créer peut-être des problèmes aussi. Je sais pas, vraiment, tu peux faire une dépression, je sais pas, un truc où t'as plus une vision très claire et puis peut-être du désordre, je sais pas. Ouais. Enfin, si je dis ça, puis comme c'est une femme, j'aurais pas qu'on m'accuse encore. Je m'explique ça comme ça. Non, non, mais tu ne dois pas être très bien quand t'es privé de revenus, quoi que ce soit, ou que, bah, que tu vis un petit peu comme ça, te débrouille. T'es pas aussi bien que le mec qui est milliardaire, quand même. Hein? Voilà. Je sais pas si j'ai réussi à me rattraper, là.
Ouais, non.
Il y a quand même un peu de confusion, en fait, effectivement.
Mais il y a nombre de militantes dans cette période-là, les années 20, on va dire, 20-40, il y a bon nombre de militantes qui ont été incarcérées pour folie. Parce que peut-être qu'elles ont énormément donné, des militantes syndicalistes, hein, je pense à... Comment elle s'appelle ? J'ai fait la chronique dans le Paris révolutionnaire et voilà, j'ai Marie Guillot, par exemple. Elle a tellement donné, une militante qui était devenue responsable nationale. Hein, c'est pour ça qu'elle habitait d'ailleurs dans le 19e arrondissement. Elle a tellement donné pour faire en sorte que les femmes se syndiquent, qu'elles puissent travailler, qu'elles aient accès à l'emploi, qu'elles aient accès aux syndicats. Hein. On se souvient de l'affaire Emma Couriot en 1913, où Monsieur Couriot, son mari, a été vilipendé par ses copains du syndicat, parce qu'il avait autorisé sa femme non seulement à travailler, mais à se syndiquer, hein, pour avoir... Puisque quand on était syndiqué, on avait, semble-t-il, le même salaire pour tous ceux qui étaient syndiqués. Donc c'était une façon aussi de réclamer un même travail, un même salaire de se syndiquer. Hein, c'était Emma Couriot, c'était loin d'être une idiote. Hein. Elle savait ce qu'elle faisait en se syndiquant. D'abord, elle trouvait que c'était bon mal que les hommes puissent se syndiquer et pas les femmes. Hein. Marie Guillot, une des premières responsables de la CGT, puis après la CGTU, je crois, je suis plus très sûre, mais en tout cas, elle a été, mais harcelée. Enfin, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, elle serait tombée dans la folie encore plus vite. Hein. Mmh. Elle était harcelée parce que dans la CGT, dans le PC, il était hors de question que les femmes travaillent, aillent dans des lieux où il y a des hommes qui travaillent et que, évidemment, on ne peut pas retenir les hommes, on le sait bien. Hein. Donc, elle risquait de se faire ploter, violer et tout ça. Et puis, de toute façon, la femme, le PC et la CGT disaient ça, hein. La femme doit rester à la maison. Hein. Jusque dans les années, allez, on va dire 60, pour le PC. C'était la réalité. La femme doit s'occuper des enfants, de la popote, et puis être permettre à l'homme de pouvoir travailler puisque la popote était garantie, les enfants gardés. Voilà. Donc, quand on joue pas ce rôle-là et que on veut absolument militer et syndiquer des femmes, etc., etc., on se retrouve harcelé et c'est insupportable. Insupportable. Aujourd'hui, ça l'était déjà à l'époque. Donc,
ça devait être même plus oppressant à l'époque, à mon avis.
Ah ben, il y avait non seulement les hommes qui étaient contre le travail des femmes et contre la syndicalisation des femmes, mais il y avait bon nombre de femmes aussi qui étaient contre. Hein? Et quand on se retrouve pas dans le lot commun de son groupe social, bah voilà, il y a quelque chose qui vont pas bien, quoi, qui tourne pas bien. Donc Germaine Berton, on a cru parce que c'était une femme que c'était une machination de l'Allemagne, des Soviets, de la finance internationale, son geste. Hein. On ne la prend pas pour une militante qui veut tuer un activiste de l'Action française. On la prend pour déjà une dérangée, manipulée. Voilà. Et quand vous êtes enfermé là-dedans, hein, ça ne doit pas être si simple. Le libertaire n'a pas été chien, hein, parce qu'elle avait peut-être piqué des documents et tout ça, mais ils l'ont sacrément défendu. Mmh. Il y a eu bon nombre d'articles pour Germaine Berton. Hein. Ça, c'est.
Mais pour faire un parallèle, je pense que les Femen, elles ne sont pas non plus prises pour autre chose que des demi-folles. Hein, quand tu regardes un peu une partie de la presse bourgeoise qui analyse leurs actions, leurs revendications, leurs éclats au sens positif du terme pour faire valoir la cause des femmes, ça n'a pas tellement changé hein, dans le malheureusement.
C'est-à-dire que quand t'es pas dans ton rôle social, et particulièrement pour les femmes, mais pour les hommes aussi, il y a un rôle social à tenir. On doit être viril, on doit être ceci, on doit être cela, voilà. Mais quand t'es pas dans ton rôle social, la pression sociale est très forte.
C'est la marge qui crée le.
Elle était un peu en marge hein, quand même, Germaine Berton.
Oui, c'est comme ça que je le sens aussi.
Il faut reconnaître. Ouais,
ça serait une autonome aujourd'hui, on va dire. Il y a 20 ans, c'était...
En même temps, commencer à travailler à 13 ans à l'usine, au chemin de fer, c'est pas des métiers forcément où tu t'épanouis, quoi. Au milieu de la ferraille et puis du bruit, enfin déjà des efforts physiques.
Elle s'en sort bien, quelque part.
Alors elle s'en sort bien, elle se reprend encore de la prison, hein, parce qu'elle fait. En fait, elle arrête de travailler, elle fait des conférences et tout ça. Et au cours d'une des conférences, elle est. Il y a une bagarre, voilà. Et elle est arrêtée parce que. Sa conférence trouble l'ordre public. C'est toujours d'actualité, ça aussi. Hein, voilà. Elle est condamnée à 4 mois de prison. Ils y vont fort, hein, quand même, avec elle. Il y a des gens qui viennent foutre le bordel et c'est elle qui est en prison, quoi. Voilà. Elle est 4 mois de prison, 100 francs d'amende.
Ouh, c'est énorme, ça.
Elle est internée à ce moment-là. Elle refuse la détention. Elle fait la grève de la faim. Pendant 8 jours, elle est transportée à l'hôpital. Elle souffre de. C'est là qu'elle souffre de troubles mentaux. C'est à l'hôpital qu'on repère qu'elle souffre de troubles mentaux. Elle cherche à se suicider plusieurs fois. Voilà. Et puis elle meurt.
Bah, elle finira par se suicider, effectivement. Enfin, alors, mais il y avait une petite anecdote que j'avais vue en fait à l'occasion d'une de ses premières incarcérations. Après l'assassinat de Marius Plateau, elle rencontre Sœur Marie-Claudia, religieuse.
Oui.
Et qui lui indique des doutes sur sa foi. Et donc visiblement, elle a réussi à la convaincre. A changé de...
Et l'autre est sortie du couvent.
Elle est sortie du couvent, mais comme elle n'a pas réussi à rencontrer les amis de Germaine Berton, elle a été voir son beau-frère, qui lui a dit, on rentre au couvent.
Oh, c'est plus facile de vivre au couvent, quand même, que de vivre avec des anarchistes.
Donc voilà, c'est... Mais bon, elle devait avoir quand même une bonne force de persuasion. Elle avait quand même avoir des choses à dire, et puis...
Moi je pense
que. Elle n'était pas que folle. Et d'ailleurs, est-ce que vraiment elle était folle?
La fin de sa vie, peut-être. Mais quelqu'un qui était instable, voilà. Non, mais
les conditions de vie génèrent des névroses sans être fou.
C'est plutôt ça.
Elle était plutôt instable et repérée par la police, toute jeune, et toute sa vie durant. Hein. Donc,
Fiché S.
Voilà, ça n'existait pas encore, mais...
À la préfecture de police de Paris. Mais il y avait des fiches.
Oui, parce que passer d'une région à l'autre, il fallait avoir son carnet, et puis sur le carnet, tout était écrit. Hein.
Ah, comme quoi, ils n'ont rien inventé. Hein.
On va se faire une petite pause musicale. Hein
oui. Voilà. Je mets quoi
c'est bon pour... Bah, tu vas nous...
Je ne sais pas, son Severino.
Si, je te l'ai dit.
Non. Voilà. Mother Jones.
Voilà, ah. Ça fera la transition comme ça avec le thème suivant. Bon, enfin, on peut dire que c'est assez bon sur Germaine Berton.
Bah oui, oui.
Ah oui,
oui,
hein. Oui. Allez, on voit la musique.
They're in the little town of Mount Olive. Now, who of note in American history is buried in the cemetery in Mount Olive, Illinois? I'll give you a hint. It was a woman. It was the Union Miners Cemetery. Do you have it yet? Mary Harris. Mary Harris Jones. Mother Jones. It's hard for the mind to encompass a life that embraced the presidencies between Andrew Jackson and Herbert Hoover. Why, when Mother Jones was a little girl, there were people still alive who remembered the Revolutionary War. And she died on the eve of the New Deal. Her millinery shop burned down in the Chicago fire, and she had heard Abraham Lincoln speak in person. Mostly, though, Mother Jones was the miner's friend. Down in Kentucky, Tennessee, West Virginia, well, the men would be organizing the underground workers, the miners. Mother Jones had already organized their wives and led them over the snow-covered game trails down into the hollows, where, armed with mops and brooms, they drove the scabs out of the coal pits. Now, Mother Jones wasn't an organizer, she was an agitator, which meant often enough she was hated as much by the organizers as by the bosses. One time, Mother Jones was out in Colorado at the great Ludlow strike. Now, that was a strike to enforce the 8-hour day, which the state of Colorado had made a law, but they couldn't enforce it because Rockefeller owned the militia. Now, the governor promised not to send the militia into the coal fields, but he lied, and he did. Mother Jones was in the Union Hall down there at Ludlow, and word came that the militia had entered the coal fields. Well, she leapt up, and she screamed, "Let's go get the sons of bitches!" And she stormed out. She didn't look to see if anybody was following her. Nobody was following her. She just flounced up the road alone and confronted the militia. And that was the year that President Theodore Roosevelt called Mother Jones the most dangerous woman in America. And she was 83 years old. That's some kind of dangerous.
Sur les ambulances, semble-t-il.
Vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 et c'était The Most Dangerous Woman, bien dit, hein.
Très bien.
Danny DiFranco and Utah Phillips et l'album c'est Fellow Workers.
Oui, Fellow Workers, c'est comme ça que les camarades des Industrial of the World commençaient leur meeting en interpellant les camarades. Les fellow workers. Tout ça, c'est pour faire la transition. On va aller. Alors, on reste dans la chronologie, mais on va passer l'Atlantique. On va aller en Amérique du Nord. Et on va rencontrer des syndicalistes révolutionnaires. On va en parler d'eux. Alors, il y aura Lucy Parsons et puis Mary Harris Jones,
oui.
Dont on vient d'entendre une chanson qui lui était consacrée.
Mental Jones.
Voilà, dans un album qui en fait, alors c'est de l'anglais, de l'américain en l'occurrence. On nous excuserait.
Mais là, on va évoquer deux Américaines.
Mais voilà, enfin, donc on sait que c'était
une Irlandaise qui a vécu aux États-Unis et puis une Américaine. Ouais.
On commence par Mother Jones.
Elle est née avant. Alors,
mais oui.
Alors elle a cette coquetterie d'avoir fêté ses 100 ans en ayant changé sa date de naissance. Voilà, elle a fêté ses 100 ans. Elle n'avait pas 100 ans, mais ça fait rien. Elle a changé de 7 années. Hein. Ouais. Elle est née en fait en 1937, mais au cours de sa vie, elle a raconté qu'elle était née en 1830. Elle est née en 1837, et au cours de sa vie, elle a raconté qu'elle était née en 1830, ce qui fait qu'en 1930, elle dit « j'ai 100 ans » et elle fête ses 100 ans.
Je peux partir, tranquille. Eh bien, oui. Alors en plus, oui, ce qui met le doute, c'est que normalement, alors, elle est censée être née le 1er août 1837, mais elle a prétendu être née le 1er mai 1830. C'est quand même plus de militante syndicaliste. Le 1er mai, on sent qu'il y a de la mythologie, un truc, quelque chose, ça se raccroche à... Ça paraît peu crédible, mais enfin bon, pourquoi pas.
Mais au départ, elle est née en Irlande, et puis après,
Elle a suivi ses parents qui ont...
Elle a suivi
migré.
Ses parents qui
ont migré suite à aux grandes famines.
Et puis... aux millions de personnes d'Européens qui ont migré aux États-Unis, voilà, enfin en Amérique, hein, parce qu'il n'y avait pas des États-Unis encore en Amérique.
Elle a une vie assez dramatique, hein. Déjà rien que sur la vie, au-delà de la vie militante, elle a quand même un parcours. Bénédicte pourrait nous en parler, mais elle parle pas beaucoup.
Non, c'est pas mon rôle.
C'est pourtant le rôle de tout. Donc elle épouse.
Elle épouse George Jones,
qui va lui donner son nom. Jones.
Elle perd son mari, elle perd ses 4 enfants à cause de la fièvre jaune, voilà.
Six ans après avoir été mariée.
Elle travaille. Alors, elle étudia à l'école normale d'institutrice, mais avec tout ça là, le fait qu'elle épouse Jones et puis que tout ça, la mort de son mari, la mort des 4 enfants et tout, elle va travailler surtout comme couturière. Voilà.
Il faut qu'elle se débrouille seule, là, du coup. Parce que tout à l'heure, on évoquait, je sais plus si c'était en antenne ou pas, que c'était. On est à une époque où, quand même, c'est les hommes qui travaillent et les femmes qui s'occupent des enfants. Là, il n'y a plus d'enfants, il n'y a même plus d'hommes pour te nourrir. Il faut que tu te démerdes tout seul, en fait. Hein.
Ouais. Et peut-être que couturière, c'était mieux pour pouvoir travailler à domicile et garder les enfants. Puisque dans la majorité des couturières, et ça, Emma Goldman nous le raconte, hein, quand elle arrive aux États-Unis, elle raconte la même chose. La majorité travaillait à domicile, donc pouvait garder les enfants.
Parce qu'elles n'étaient pas, alors je connais un petit peu le sujet, elles n'étaient pas salariées. Elles étaient payées à la tâche, à la pièce. Et donc plus on faisait de pièces, plus on était rémunéré. Mais en même temps, souvent, les prix proposés par le donneur d'ordre était revu constamment à la baisse. Donc il fallait faire encore plus de pièces pour gagner encore moins d'argent.
Moi, c'est la même chose dans le salariat. Hein. Il faut la rentabilité.
Voilà, c'était bien.
Alors, ça ne suffit pas dans ses malheurs. Toutes ses affaires brûlent dans un grand
incendie de Chicago.
Voilà, l'incendie de Chicago en 1871. Voilà.
Pendant 2 jours, du 8 au 10 octobre. Oui, c'est pas. Alors, c'est Panthère à la Commune.
C'est pas
pareil. Et pendant 2 jours d'incendie, où elle perd effectivement tous ses biens.
Elle perd tout.
Tous les vêtements qu'elle avait cousus.
Non, mais enfin, c'est quand même poursuivie un petit peu par le. Malchance quand même.
Le décor est planté, oui.
Ah oui, là, déjà, c'est. C'est pas mal.
Mais quand on la voit en photo, puisqu'on a, on a la chance de, d'avoir des photos dans cette période-là, c'est une nana bien plantée.
Alors, elle, pour le coup, elle fait, elle fait solide. Elle fait pas. Habillée en noir aussi, parce que suite justement. Alors, c'est pas par fétichisme pour l'anarchisme, comme on peut le retrouver chez nous, des fois, mais c'était plutôt lié au deuil de sa famille. Quoi. Donc, elle sera habillée tout le temps en noir jusqu'à la fin de sa vie.
Et donc, on se souvient d'Emma Goldman qui nous parlait des marches des chômeurs. Hein. Elle y participe, elle les organise même à la fin du 19e siècle. C'est et très vite, elle va co-fonder les IWW.
Hein. Ah, c'est vrai qu'elle a pris son expérience dans diverses organisations syndicales. Hein, il y a d'abord les Chevaliers du Travail, enfin, ça s'appelle pas comme ça, parce que c'est en anglais, c'est les Knights of Labor, sans doute. Voilà. The Noble and Holy Order of the Knights of Labor. Voilà. Alors, c'est un petit peu inspiré de la franc-maçonnerie, du compagnonnage, de... Bon, bref, c'est quand même une organisation syndicale. Elle va en utiliser une autre, c'est l'United Mine Workers. Alors, je ne sais pas si elle a travaillé dans les mines, en fait.
Non, elle n'a pas besoin. Voilà. Elle n'a pas besoin,
mais,
là.
En tout cas, elle a défendu.
Pour organiser mineurs. Les syndicats.
Elle a, fait partie, elle a fait partie de ce syndicat, quand même. Donc ça, c'est prêt... Pré-fondation aux Industrial Workers of the World.
Voilà, 1905. Des IWW. Moi,
Et donc, comme tu disais, oui, elle avait déjà, jusqu'en 1894, dès 1894, elle avait déjà une pratique syndicale, une expérience syndicale, puisque... Voilà,
De manifs de chômeurs. Hein, ouais. Il y avait des grosses manifs de chômeurs qui réclamaient du pain. Enfin, voilà, c'est aux États-Unis, c'était quelque chose... moi, je l'ai lu avec Emma Goldman, elle le raconte plus d'une fois. Hein. Moi, j'ai pas retrouvé le livre que j'avais acheté chez Maspero, parce que Maspero, dans les années 70, avait fait un livre sur Mary Jones que j'ai acheté chez moi. Il y a tellement de livres que je l'ai pas retrouvé. Mais c'est la lecture. C'est un personnage qui m'a marqué, parce que au moment des livres qui sortaient chez Maspero, il y avait très peu de livres sur les femmes. Très, très, très peu. Donc, dès qu'il y en avait, hein, puisque moi, j'étais dans des groupes femmes, à partir de 1971, là, je dis bien 1971.
Je n'ai rien dit.
Dès qu'il y avait un livre sur les femmes, je l'achetais, voilà. Alors, je l'achetais collectivement, parce que j'étais dans une bibliothèque... itinérante sur les marchés, on prêtait des livres et donc chacune d'entre nous, on achetait un livre, on le lisait, on le passait à l'autre et tout. Puis une fois qu'on l'avait lu, hop, on le mettait dans la bibliothèque itinérante. Hein. C'est comme ça que j'ai lu tous les livres qui sortaient, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mmh. Et Mary Jones, c'est un des livres que Maspero avait sorti, mais je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Bon, en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle s'oppose au droit de vote, elle.
Ouais.
Voilà, c'est ça par rapport à Séverine, c'est quelque chose
à... La conscience un peu plus poussée. On va dire qu'effectivement, c'est plutôt le droit de vote, c'est une manière, ce que j'ai cru comprendre, c'est pour les hommes d'occuper leurs femmes un petit peu.
Non, alors là.
Il y a un petit peu de ça, le fait de les laisser lutter.
Là, t'es très, très méchant et t'es mauvaise langue. Le droit de vote. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On est anarchistes, on est contre le vote et tout ça. OK. Mais le droit, quand les féministes et les syndicalistes réclamaient le droit de vote, c'était aussi tous les droits sociaux qui sont afférents au droit de vote. C'est pas voter, c'est être reconnu comme un individu à part entière, à égalité avec les hommes. Un, c'est déjà ça. Deux, c'est pouvoir peser sur, les indemnités chômage, enfin, voilà, toutes ces choses que nous, on connaît, dont on a bénéficié et qui tout part en quenouille, c'est vrai, mais en tout cas, c'est les anciens qui nous ont permis de gagner ça, hein, et on a vécu avec ça. Donc, quand on parle de droit de vote, il y a les droits politiques et sociaux qui accompagnent.
Je suis bien d'accord avec ce que tu me dis. Je partage pas forcément l'idée, mais j'essayais pas de juger. J'essayais de restituer de mémoire à peu près ce que disait. Alors, problème, c'est que j'ai piqué ça sur Wikipédia. Je sais pas ce que ça vaut. Donc, le Wikipédia nous dit, elle s'oppose au droit de vote des femmes. La considération, est considéré comme une distraction bourgeoise détournant les travailleuses des questions économiques. Bon, ça c'est Wikipédia qui le dit. Et apparemment, ils reprennent un bout de texte de Jones. C'est « Les syndicats doivent mobiliser leurs femmes sur les problèmes de l'industrie. La politique n'est que la domestique de l'industrie. Les plutocrates ont occupé leurs femmes. Ils les occupent avec le vote et la charité. »
D'accord. Ok. Ok, mais on va retrouver ça aussi chez Lucy Parson, hein. Mmh. Cette idée parce que ce sont des syndicalistes aussi, hein. Cette idée que les femmes, on ne peut pas penser le capitalisme sans penser à la position des femmes dans le monde ouvrier dans le monde ouvrier et dans le travail ouvrier. On ne peut pas penser les deux séparément, puisque les ouvrières sont moins bien traitées que les ouvriers. Voilà. Donc il vaut mieux se mettre ensemble dans le syndicat et être tous ensemble pour essayer de gagner quelque chose vers l'égalité, plutôt que de penser que le vote politique va permettre au patron, et le patron américain de l'époque, hein, c'était quand même quelque chose.
Pop, ils sont gentils comme tout.
ils sont toujours les mêmes. Ils tirent, ils tuent quand ça va pas, quoi. Hein, voilà. Ouais, donc le droit de vote, ça sert pas à grand chose pour gagner là où les ouvriers et les ouvrières sont ensemble. Ce qu'ils devraient gagner pour tout le monde, quoi. Enfin, pour à la fois pour les hommes et pour les femmes. Je crois que c'est cette dimension-là qui est très forte dans le syndicalisme des IW. Voilà. Et elle incarne ça. C'est pour ça qu'elle peut se permettre de critiquer. Voilà, parce que elle est ouvrière là dans quand elle dit ça. Alors, tu voulais peut-être dire autre chose.
Non. En gros, c'est bien, mais après, je ne veux pas me faire taper sur les doigts.
Non, mais c'est pour... c'est quand on a une vision féministe et de l'évolution, hein, de l'évolution du féminisme, ça, c'est par rapport au livre que j'ai écrit sur celle de 14. J'avais travaillé sur les Américaines et les Anglaises. Comment elles ont été autant pour le droit de vote. Hein. Pourquoi ? Parce que elles ont une grande partie des féministes, a lutté contre l'esclavage. Et au moment où il y a eu l'abolition de l'esclavage, et X lutte et X mort, bien sûr, hein, mais on a donné le droit de vote aux hommes noirs. On n'a pas donné le droit de vote aux femmes blanches, ni aux femmes noires. D'accord ? Il a fallu attendre 1919 pour cela. Et les féministes pensaient que, comme elles avaient militer, mais très fortement, contre l'esclavage, elle pensait qu'on allait les récompenser quelque part avec un droit de vote. Ça, ce sont les féministes, on va dire, un petit peu bourgeoises. Mais un petit peu, parce qu'il y avait aussi des féministes, surtout en Angleterre, qui n'étaient pas bourgeoises du tout, hein, qui étaient aussi pour le droit de vote. Comme en France, d'ailleurs, il n'y avait pas que les bourgeoises. Hein. Mais voilà, il y avait cette idée-là chez les Américaines. Du coup, on a un débat sur le droit de vote qui est complexifié par ce qui s'est passé par rapport à l'abolition de l'esclavage. Et que nous, on ne connaît pas en France, du tout. Il a fallu attendre 1946, le bon vouloir du général, pour que les femmes soient, aient un droit de vote, voilà. 46, 45, enfin,
oui,
elles ont voté...
mars 1945.
Ouais, mais elles ont voté la première fois en 46, voilà. Donc, Mother Jones, ça a été une grande militante, hein, une très très grande militante des IWW, et on la retrouve. Par exemple, elle a fait un livre où elle raconte sa vie et elle décrit le travail des enfants dans les filatries, enfin des
filatures
de coton et tout ça. Elle est vraiment ancrée dans le monde ouvrier, elle. Hein, c'est pas du tout une bourgeoise, alors qu'elle avait commencé par être institutrice, enfin, à vouloir être institutrice, hein, quand même. Mais, voilà. Bon. Alors, elle a raconté aussi n'importe quoi sur qui étaient ses parents. Hein. Alors, non, c'est pas... Non.
Non, tu comprends, ça, c'est Lucy Parsons, ça.
Ouais. oui, oui. Non, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Passer un petit peu vite de l'une à l'autre.
Oui, oui, voilà. Non, c'est vrai, t'as raison.
Mais c'est vrai que Marie Harris, elle a quand même une vision très révolutionnaire, quoi. C'est pas juste acquérir, hein, tu vois, des améliorations des conditions de travail.
Oui.
J'ai repris cette phrase aussi. Or, le renversement complet du système capitaliste, je ne vois aucune solution. Et selon moi, le père qui vote pour la perpétuation de ce système est tout autant un meurtrier que s'il prenait un pistolet pour tuer ses propres enfants. Ça, c'est pour faire le lien. D'abord avec le droit de vote, et puis avec le fait qu'elle dénonçait les conditions des enfants dans les filatures de coton, son autobiographie notamment. Donc, effectivement, pour elle, c'est pas juste on va améliorer les conditions de travail de tout le monde. C'est vrai, il faut renverser le capitalisme. C'est un vrai discours révolutionnaire. Comme on aime l'entendre chez les syndicalistes révolutionnaires.
Et voilà. Notamment dans les filouteries de coton.
Les filouteries, voilà.
Ah oui, parce que les Américains, contrairement en France, il y avait des enfants qui travaillaient aussi, mais les mômes là-bas, à 6 ans, peut-être avant 6 ans même, ils travaillaient encore. Parce que nous, depuis 1841, il y avait quand même, je ne sais plus le nom de ce médecin là, qui
Villermé.
Voilà, qui avait dit qu'il s'était rendu compte que si on faisait travailler les enfants trop tôt, ils perdaient des doigts, puis ils ne pouvaient plus tirer sur les gâchettes quand on les envoyait au service, à la conscription.
Et puis devenaient des mauvais ouvriers adultes. Voilà. Hein,
oui,
mais c'est
surtout
sans main, sans pied.
Mais au départ, c'est le ministère de la guerre qui a demandé à ce qu'on fasse une étude pourquoi les jeunes qui arrivaient à 18 ans à la conscription, enfin 18-21 ans, étaient déjà estropiés. Et donc, pour éviter d'être estropiés, on a mis des mesures pour limiter le temps de travail des enfants.
Et
c'est
oui.
ça, c'est pas, c'est même pas
c'était
pour.
C'était pas un médecin social du tout, c'était un médecin militaire, ouais.
Ouais. C'est. Mais bon, ça a servi un petit peu la cause.
Bien,
hein,
sûr, bien sûr.
Et les gamins, plutôt que de travailler 16 heures par jour, ils travaillaient plus que 12. Je rigole, mais c'est un petit peu ça. Enfin, ça dépend de l'âge.
Oui, qui auraient été envoyés se faire tuer, sinon. Hein.
Voilà. Mais donc, il n'y avait pas ça aux États-Unis. Donc, dans les années 1890, il y avait toujours des mômes de 6 ans qui bossaient dans les filatures. Quoi. Même moins que ça,
d'ailleurs. Le libéralisme sauvage.
Il n'y avait pas de protection de rien du tout.
Il n'y avait
donc,
rien.
Ce qui explique effectivement cette phrase où il culpabiliserait justement des pères de famille qui voteraient d'abord pour le système bourgeois qui met en place, qui maintient un système où on tue les enfants au travail. Quoi.
Ouais. Elle a.
J'aime ce discours.
Elle a aussi agi avec les révolutionnaires mexicains. Hein,
ouais. J'ai pas trouvé beaucoup de trucs là-dessus.
Par rapport aux réfugiés, à ceux qui sont réfugiés aux États-Unis, voilà, elle avait cette dimension évidemment internationale, qui est importante. Surtout que le Mexique, comme encore aujourd'hui, sauf qu'ils ont mis un mur, mais le Mexique a toujours fourni des ouvriers de basses conditions une fois qu'on a aboli l'esclavage. Hein, voilà.
Le mur n'empêche toujours pas les Mexicains de passer avec la drogue ou sans drogue.
Bien sûr. C'est... Mais en tout cas, cette notion...
Qui a financé le système capitaliste américain.
Cette intervention internationale faisait partie de son ADN aussi. Quoi. Hein, voilà. Je ne sais pas si tu as vu sur Wikipédia aussi ce que dit Trotsky de...
Oui, je ne l'ai pas amené parce que
lu son autobiographie en 1935. Trotsky, c'est drôle quand même. L'autobiographie de Jones, je la lis avec délectation, dit-il, dans ses descriptions de luttes ouvrières, condensées et dépouillées de toute prétention littéraire. Jones dévoile au passage un effrayant tableau des dessous du capitalisme américain et de sa démocratie. On ne peut pas, sans frémir et maudire, lire ces récits de l'exploitation et de la mutilation des petits-enfants dans les fabriques. Voilà. Même Trotsky reconnaît que c'était des descriptions qui donnaient vraiment...
C'est bien qu'il se rachète un peu quand même.
Mais j'allais dire, est-ce que c'était pas un petit peu démago aussi?
Non,
il est au Mexique.
Il était au Mexique, bien sûr.
Il cherchait peut-être du travail.
Ouais. Excusez-nous de rire, chers auditeurs, auditrices.
Mais oui, Trotsky est drôle.
Non, nourrit pas une... On nous nourrit de la haine pour Trotsky. Disons-le clairement. C'est un assassin.
C'est pour ça que c'est un peu drôle de penser que Trotsky, il lisait tout.
Ah oui, non, mais il lisait. Mais il y avait déjà une.
Et que il la reconnaît comme une militante, quoi. Voilà.
Et qu'il est sensible au sort des enfants.
Oui.
Ça, c'était très étonnant, en revanche, parce qu'il n'avait pas la même sensibilité.
À Kronstadt, c'était pas le truc. Hein.
Oui.
Et on
mais Trotsky, il avait déjà fait une préface, je crois, de Trotsky sur le talon de fer de celui qui a écrit Cro-Blanc, là, je me souviens plus.
Ah, Jack London.
Jack London, voilà. Donc il a écrit le talon de fer. Il raconte l'histoire d'un mouvement souterrain socialiste qui met du temps à fomenter sa révolution. Et il avait écrit beaucoup de bien aussi. Alors, je pense qu'il a Trotsky a été un petit peu opportuniste aussi. Et je crois qu'il flattait beaucoup les Américains. Je ne sais pas ce qu'il attendait d'eux. Je connais pas trop
une
sa
protection.
Vie. Je sais pas, peut-être qu'il en avait marre du Mexique, hein, il faisait peut-être trop chaud pour lui, donc peut-être qu'il voulait monter plus dans le nord. Je sais pas, mais sans doute qu'il s'intéressait de toute façon à tout ce qui était
social.
Connaissant le personnage, fallait bien qu'il se raccroche à quelque chose, quoi. Hein, c'est pas Staline qui allait le soutenir. Hein. L'histoire nous a montré que c'est pas du tout ce qui s'est passé.
Voilà, on va peut-être parler un petit peu de Lucy Parsons, parce qu'elles ont milité ensemble, toutes les deux, à partir de 1905, elles ont milité ensemble aux IWW. Hein.
Alors, je ne sais pas elles ont milité en même temps.
En même temps. Et donc, ça, c'est important. Et elle est morte assez âgée, hein, Lucy Parsons, parce qu'elle, elle n'a pas raconté des bobards sur sa date de naissance. Donc,
et juste sur sa parenté.
Voilà.
Là, pour le coup, oui.
Oui, c'est elle qui est sur sa parenté. On ne sait pas grand-chose. Elle ne voulait pas parler d'elle, donc quand elle en parle, ça va pas avec ce qu'on a recueilli par ailleurs. Alors, elle est née en 1853 et elle est morte en 1942. Donc, elle avait presque 90 ans.
C'est pas une bonne année, 42. Hein.
Ben oui, oui. Encore une. Hein.
Encore
ouais,
une. Encore une.
Alors, Lucy Parsons, elle est connue aussi. Elle a sa propre vie. Hein, son... Mais elle porte le nom de quelqu'un de, je veux dire, de célèbre, puisque c'est Albert Parsons. C'est un des cinq...
assassiné.
Les cinq martyrs de Haymarket, ouais, hein, ouais. Ceux qui, on va dire ceux qui sont, pour, ouais, qui sont à l'origine de, du 1er mai, on va dire. Bon, voilà, donc elle était...
Ouais.
Mais bon, elle a continué. À,
oui, parce
elle a milité avec son mari. Oui.
Elle s'appelait Lucia Carter quand elle est, ouais. Quand elle est née. Elle s'est appelée Lucia Parsons quand elle était avec Albert. Et après, elle a changé de Lucia, elle est passée à Lucy. Mmh. Voilà. Et donc, on la connaît parce qu'elle avait 89 ans quand elle est morte et elle a quand même milité pendant tout ce temps-là. On la connaît énormément en dehors d'Albert. Hein. C'est une militante en tant que telle.
Mais n'empêche qu'Emma Goldman, tu as évoqué tout à l'heure qu'effectivement, ouais. Il y avait quand même un conflit avec Emma Goldman. Emma Goldman a tendance à dire qu'elle servait justement du nom de son mari pour prospérer littérairement, on va dire, enfin, comme ça, ou au niveau politique.
Je pense qu'elle est un peu de mauvaise foi, Emma Goldman, sur Lucy Parsons. Parce que... elle était toute seule, Lucy. Son mari est tué, puis c'est quand même un personnage. Voilà, c'est... un peu normal qu'elle utilise un petit peu le nom. Elle aurait pu dire ben non, je le connais pas. Au contraire, elle a épousé exactement les mêmes idées que son mari. Bon, et puis elle a milité elle-même.
Et alors, j'ai appris que son mari est un ancien soldat confédéré, quand
oui,
même.
Oui, oui, oui.
Ouais. Mais comme quoi, tu vois, tu peux. Alors, je ne sais pas quel était son engagement, hein, parce que de toute façon, je pense qu'on en sait peut-être plus sur Lucy Parsons que sur Albert Parsons. Mais, il a fait quand même du chemin, parce qu'il est devenu anarchiste lui-même. Je pouvais dire un truc juste, parce que tout à l'heure, on a parlé de comme on évoquait Marie Harris, et qui avait quand même une vie, pas mal, une vie de merde, qui a quand même commencé difficilement, quoi. Mais à la fin de sa vie, il y a quand même deux individus qui sont rentrés chez elle. Donc, elle avait était censée avoir 95 ans, mais bon, peut-être on va dire 90 ou 80 et quelques. Des individus qui s'introduisent chez elle pour lui voler je ne sais pas quoi, enfin peut-être pour la liquider d'ailleurs.
Ah,
et elle les fait fuir, elle leur fout une dérouille à un qui va mourir de ses blessures. Enfin, c'était quand même une femme qui avait déjà plus de 80 berges, quoi.
Ouais.
Fout une dérouille, je pense qu'elle...
Il était pas solide, le garçon. Hein.
Les petits vénadeux sont partis. Alors, ils étaient envoyés, je sais plus par qui, pour... Enfin, bon, c'était un coup monté contre elle. Je trouvais ça que c'est marrant, quand même, comme anecdote. Pour dire que tu disais que c'était une carrure, mais quand même, je pense, très longtemps, ça l'est resté. Bon, excuse-moi.
Alors, comme il nous reste pas beaucoup de temps...
Ben, on va aller jusqu'au bout. Hein.
Voilà, c'est jusqu'à 21h, n'est-ce pas? Alors, quand même, on va... Lucy Parsons, donc, c'est une militante pendant toute sa vie, révolutionnaire. Voilà. Que Emma Goldman se dispute avec elle, peut-être, mais en tout cas, c'est quand même une militante. La discussion qu'il y a entre Emma Goldman et Lucy Parsons, c'est la place... y compris des ouvrières. Dans ce que je disais tout à l'heure, et ça appartient aux IWW, parce que Emma Goldman n'y était pas, elle. D'accord ?
Ouais.
C'est peut-être la différence. Et que Lucy Parsons, c'était aussi une féministe. Voilà.
Ils n'avaient pas la même vision du féminisme. Enfin,
pas du tout la même vision.
C'est de là que viennent leurs divergences d'opinion.
Emma Goldman était féministe de par ce qu'elle avait vécu, de par ce qu'elle a, de par ses actions. On peut pas dire qu'elle n'était pas féministe, Emma Goldman. Bon, après qu'elle dise qu'elle l'est ou pas, ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, elle a montré de par sa vie et de par, enfin, elle a dirigé sa vie, elle a milité pour les droits des femmes. Enfin, voilà. Lucy Parsons, elle milite dans le syndicat. Et dans le syndicat, elle milite pour les femmes. C'est un peu ça la différence. Et on a du mal à comprendre qu'Emma Goldman ne l'entende pas, ça. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'elle a peut-être un petit peu de mauvaise foi. Mmh. Elle se permet d'écrire voilà, le succès de l'événement. Alors, c'est un événement qui était... bon, elle dit... Bon, Goldman, ce que tu as dit tout à l'heure, accuse personne de se servir de la mort tragique de son mari pour se faire entendre. Bon, sauf que elle défend les femmes, et ça n'a rien à voir avec son mari. Mais elle n'est pas comme Emma Goldman pour mettre l'amour libre sur le devant de la scène. Mmh. Elle est pour d'abord défendre les ouvrières. Et c'est peut-être ça qui est... Parce qu'Emma Goldman était libre. Elle a eu des amants, elle a, ce que je disais tout à l'heure, elle a géré sa vie. Lucy Parsons, elle gérait le syndicat. Et elle était avec les ouvriers et les ouvrières. Et ce n'était pas la même réalité du tout. Hein, voilà, peut-être que c'est ça qui... Voilà. Alors elle dit, Goldman, le succès de l'événement fut malheureusement affaibli par Lucy Parsons, qui au lieu de condamner les attaques injustifiées de Comstock et l'arrestation d'anarchistes, préféra s'opposer à l'éditeur de Firebrand parce qu'il tolérait des articles sur l'amour libre. Hein? En dehors du fait que l'anarchisme n'enseigne pas seulement la liberté dans les domaines économiques et politiques, là, elle vise Lucy Parsons, économique et politique, mais aussi dans la vie sociale et sexuelle. Lucy Parsons est mal placée pour s'opposer à des traités sur l'amour libre. Voilà. Et je m'exprimais, alors ça c'est toujours Emma Goldman qui dit, après Lucy Parsons, ai eu du mal à changer l'ambiance déplaisante, non mais elle est gonflée, hein, que ses remarques avaient causé. Je parvins également à gagner la sympathie et le soutien matériel des personnes présentes. Voilà. En fait, elles se situent pas dans la même militance féministe.
Il y a une rivalité quand même à travers...
Et une rivalité.
Ouais. Rivalité de personnes aussi, ouais, d'égo, ça très certainement.
Alors, c'est aussi pour ça que je me dis qu'elle est de mauvaise foi quand même. Emma Goldman, c'est que visiblement c'était pour une commémoration, ce texte est lié à une commémoration sur...
L'arrestation d'anarchistes.
Ouais. Mais ça devait être aussi... Merde, je sais plus ce que je... Bon, enfin bref, bon, je suis pas sûr. Mais bon, oui, bon, c'est pas grave.
Non, parce que il y avait dans Firebrand, il y avait un amalgame peut-être entre la dépravation sexuelle et la beauté de la libération des travailleurs. Voilà. Il y avait un article là-dessus, et c'est vrai que on peut quand même se dire dépravation sexuelle, c'est un peu fort de café d'avoir écrit ça. On peut dire amour libre, hein. Et puis le lien avec la liberté ou la libération des travailleurs. Pour une militante syndicaliste, bon, voilà. Elle faisait une différence, Lucy Parsons.
Bon, Jean-Manuel du Protons Rebif nous signale qu'il se rebiffe.
Et elle meurt, alors pour terminer, elle meurt dans un incendie.
Ouais.
Voilà, il y a des incendies beaucoup aux États-Unis.
Aussi,
hein.
C'est vrai que justement, c'est ce que
ça brûle bien.
On a parlé, on a évoqué l'incendie de Chicago en 1871. C'est vrai que les constructions, c'est en bois, ils sont les unes sur les autres. Donc, forcément, t'as un problème, t'as tout qui s'embrase. C'est surtout les quartiers pauvres, hein, en général, qui brûlent. Mais ça a permis, justement, pour Chicago, justement, cet incendie, ce grand incendie-là, ça a permis après de pouvoir reconstruire en bien, en beau, en plus haut. Ça a été une des premières villes modernes, quoi, en fait.
Avec des buildings.
Ouais. Avec les buildings de l'époque,
enfin,
ça leur a permis
les quartiers populaires restent des quartiers populaires, ceci dit, avec des maisons qui sont pas des buildings forcément.
Non, c'était pas des buildings, mais ils ont fait des constructions plus hautes, toujours avec une vie de merde sans doute, mais c'était plus esthétique, tu vois, moins le bordel, tu vois, c'est pas, ressemblait moins à bidonville sans doute. Enfin, ils se sont profiter de cet incendie pour faire des villes modèles. Bon, bref, on va se quitter là-dessus. Merci Hélène d'être venue. On a traité que de deux tiers de ce qu'on avait prévu. Mais bon, c'est pas évident.
C'était prévisible.
C'était prévisible.
La richesse du sujet.
Ouais. Et puis, on rappelle que tu fais une émission tous les mercredis.
Tous les mercredis, de 18h30 à 20h30. Et ce mercredi-là, on a un opus poétique, puisqu'on a une amie qui nous présente des poèmes. Après, on a une chanteuse. Alors, la chanteuse, c'est Karine Achard, chanteuse féministe. Et pour terminer, on a... Colline Grandot pour le ballet Libéré, une grève de femmes à l'université de Louvain-la-Neuve en 1975 qui avait viré le patron, 100 femmes qui pendant 14 ans ont géré en autogestion l'entretien de l'université.
Continuez d'entendre parler des femmes qui luttent. Et ben voilà, vous écoutez sur Radio Liberté à 89.4 MHz, l'émission Femmes Libres, mercredi. Et nous, on se retrouve le 15 janvier, si tout va bien.
Et tout va bien.
Si tout va bien.
Et ciao.
Et bisous, salut.
Bonsoir.
Vous allez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
n'avait réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont